À vous qui découvrez cet enregistrement dès sa sortie ou bien plus tard, ceci n'est pas seulement un podcast, c'est une enquête. Une enquête sur l'avenir. Il est indéfini, on nous dit qu'il est incertain, et de plus en plus il nous paraît plein de menaces. Mais est-ce une fatalité ? Je m'appelle Ariane Cronel et j'ai décidé de découvrir pourquoi on nous a comme kidnappé notre avenir, et surtout, comment penser et avancer aujourd'hui pour faire exister des futurs qui nous réjouiront demain.
Enquête d'avenir.
Pour finir d'examiner la scène de crime qui a vu disparaître notre avenir, j'ai convoqué un témoin tellement discret qu'on ne pense pas souvent à l'interroger. Le récit. L'écrivain voyageur Sylvain Tesson dit, à propos de l'œuvre d'Homère, que les Grecs nous renseignent sur ce que nous ne sommes pas encore devenus. Je me demande donc si la littérature peut nous renseigner sur notre avenir, nous le faire entrevoir et nous y préparer. Et puis, je me demande aussi si ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire si on peut, en racontant des histoires, changer la trajectoire de l'humanité.
J'ai un auteur qui s'appelle Xavier Dorizon dans la rétine. Il m'a dit, tu sais, il n'y a rien de plus important que les histoires dans la vie.
Nicolas Mainviel, dans l'épisode 1, avait évoqué très brièvement la différence entre avenir et futur et les conséquences que pouvait avoir de simples récits sur notre existence.
Regarde, il y a un type qui a raconté l'histoire d'un type qui était cloué sur une croix il y a 2000 ans. Regarde les conséquences pour l'humanité.
Cela voudrait donc dire que le récit disposerait du pouvoir magique et mystérieux de permettre la transformation du monde, là où les dirigeants politiques et économiques échouent lamentablement. D'ailleurs, et ce n'est pas un hasard, je constate que les appels à l'élaboration de nouveaux récits se multiplient. Mais comment quelque chose d'aussi fragile qu'un ou plusieurs récits pourrait-il s'opposer à un phénomène aussi massif que le changement climatique ? C'est dans la campagne valenciennoise que je vais tenter de faire parler ce drôle de témoin. Assisté par Xavier Mauméjean et Nicolas Télope.
Xavier, j'en doute pas, mais moi je vais essayer de trouver des trucs intéressants à dire.
Tous deux écrivains et spécialistes de science-fiction, je vais tâcher de comprendre pourquoi nous croyons dans le pouvoir des histoires et si on peut vraiment attendre des récits l'émergence d'un nouveau monde.
On est l'animal du pourquoi. Ce pourquoi est à l'origine des récits, il vient de notre faiblesse. Nous sommes une espèce extrêmement faible. En fait, quand on y pense, ce que ça veut dire, c'est qu'on est obligé de se lier. Et pour se lier, c'est là la naissance des récits. On doit créer des religions pour relier et on construit des récits qui sont donc fondateurs de notre identité. On n'est pas seulement dans le langage, mais on est les seuls à transmettre des histoires d'une génération à l'autre et à dire que c'est constitutif de qui nous sommes, que c'est l'explication du monde.
D'après la romancière Nancy Houston, la place des récits est donc centrale dans notre identité individuelle et collective. Mais quand on dit récit, on parle de quoi au juste ?
Bon, déjà, un récit, c'est une narration avec un semblant d'intrigue. Il faut retenir l'attention de celui vers qui il est dirigé. Et puis, il faut une fin. Il faut une fin au récit. Dans les deux sens, il faut une fin, un terme, puis il faut un but, une finalité au récit.
Ah bah c'est bien parti. À peine quelques minutes d'interrogatoire, et j'ai déjà l'impression que le témoin se moque de moi. Il n'y a pas encore plus vaste comme définition du récit ?
Alors maintenant, faut s'entendre sur ce qu'est un récit. Est-ce que c'est simplement une narration ? Non, parce que à la limite, les consignes d'usage des toilettes dans le TGV, c'est un récit. Il y a un but, des étapes, mais il faut quand même une intrigue.
Qu'est-ce qui n'est pas récit à un moment donné ? Parce qu'on a l'impression que tout peut devenir récit. Notamment, on regarde l'histoire, quand on enseigne l'histoire.
Oui.
Finalement, on raconte l'histoire. Et là, depuis le début du XXIe siècle, la technique du storytelling en politique ou dans la publicité ou ce genre de choses, finalement, elle a explosé. Et puis, finalement, tout le monde raconte quelque chose. Là, on pourrait se dire, quoi, qu'est-ce qui n'est pas vraiment récit dans les discours qu'on tient, finalement ?
On pense que les premiers récits sont des récits d'enseignement. et donc qui ont un trait dans un premier temps au passé. Donc je vais mettre en forme à partir de sons, à partir de gestes aussi, ce qui est très intéressant, l'expérience qui est la mienne, qui donc nécessairement a trait au passé, de manière à la communiquer dans le présent à quelqu'un en vue de son avenir. Donc déjà, les trois vecteurs temporels qui sont posés par le récit, à ceci près que les premiers récits n'ont pas de valeur liée au futur, mais c'est une sorte d'instant sans durée, de présent reconduit. Oui, puisque moi, il m'est arrivé ça quand c'était le présent, je te le redonne, et probablement, quand ça t'arrivera dans le présent, il se passera ceci, et donc voilà comment il faudra réagir.
Voilà qui est très intéressant. Car si l'une des fonctions du récit consiste à se préparer pour agir, cela présuppose un monde stable, marqué par une répétition immuable des événements. Or, on a bien vu avec Patrick Lagadec que cette conception ne nous permettait pas du tout de faire face à l'inconnu, aux crises inédites. Et puis, de toute façon, ce rôle d'enseignement du récit ne marche que dans un univers qui ne change pas, où le futur n'est que le retour prévisible du présent. Mais dans un tel monde, existe-t-il seulement un avenir ?
Il y a un des précédents intervenants du podcast, Nicolas Mainviel, qui est très attaché à ça aussi. Ben, en fait, c'est une sorte de cadeau de la langue française qui est que on distingue l'avenir et le futur, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans les pays anglo-saxons. Tu as des auteurs qui s'y sont beaucoup aimés, genre Warren Ellis, qui pousse une grande réflexion sur le futur, mais il n'a que le mot futur. Ce que nous, on a deux. Et en fait, l'avenir, ça désignerait un futur immédiat sur lequel on pense avoir prise. D'accord. Qu'on dit aux jeunes, pense à ton avenir. Il faut que tu te soucies de ton avenir. Donc l'avenir, il entre dans une forme de récit, mais qui n'a aucun charisme, qui n'a aucun... C'est pas sexy, parce qu'il y a une urgence, une culpabilité, etc. Ça, c'est l'avenir. Donc maintenant, l'avenir, il fait plus rêver. Le futur, par contre, déjà, il se décline au pluriel. Il y a des futurs possibles en même temps. Mmh. Il y a des futurs alternatifs, etc. Donc, c'est le futur qui fait rêver, alors que l'avenir préoccupe.
Ah, j'avais jamais vraiment réfléchi à la différence entre avenir et futur. Si le futur fait rêver et que l'avenir préoccupe, de quoi nous parlent donc les récits ? De l'un ? De l'autre ? Des deux ?
Les premières traces, ce serait quoi ? Parce que moi, j'avais l'impression que c'était toutes les récits de stratégie pour la guerre, quoi. Mmh. Parce que on fait avant une bataille, hein, avant de livrer bataille, il faut qu'on établisse une stratégie et que du coup on se raconte en fait le fil du combat et de ce qui pourrait arriver et de ce qu'on devrait faire si ça arrivait et quelles sont les alternatives. Et du coup là on a une première, à mon sens, hein, mais je suis pas non plus spécialiste en la matière, mais une première évocation de l'avenir ou du futur dans un récit. Qui rentre en jeu directement avec l'existence des protagonistes et de ceux qui racontent. Et pendant très longtemps, je pense que ça a été une des seules façons d'envisager concrètement le futur, en fait.
Ah, c'est marrant que tu parles de stratégie parce que, et de l'action de rêver. La première grande réflexion, non seulement sur le récit du futur, mais l'appréhension logique du futur, c'est Aristote, dans un ouvrage qui s'appelle L'Interprétation, au livre 9, qui est très important.
Alors là, je commence à sérieusement m'inquiéter devant cette déposition. Parce que la philo, je dois vous l'avouer, ça n'a vraiment jamais été mon truc. Si on doit aller chercher le père Aristote pour déterminer comment les récits jouent un rôle dans notre avenir, j'ai vraiment peur que l'enquête ne m'échappe.
Et justement, comme exemple, il prend « Demain, la bataille navale aura lieu et n'aura pas lieu. » Aristote, qui est quand même l'inventeur de la logique, donc c'est ce qu'il dit, dit que le principe de contradiction, c'est ou ce n'est pas, c'est valable pour le passé, ça peut être identifié, c'est valable pour le présent, je suis là ou je ne suis pas là, mais le futur est indéterminé. Et donc la bataille navale aura lieu et n'aura pas lieu. Ce qui est très important, parce que, comme tu l'as dit, c'est le premier grand coup de boutoir à la conception du destin. Mmh. C'est-à-dire que jusqu'alors, notamment chez les Grecs, on pense que la bataille navale, elle est quelque part déjà actée ou effacée. Mais quelque part, une intelligence supérieure le sait, ou le cosmos le sait, etc. Et Aristote dit que non. En fait, les deux futurs coexistent, ce qui en fait une impossibilité logique, une impossibilité d'appliquer le fameux principe de contradiction, et que donc c'est que lorsque ce qui m'apparaît comme futur au pluriel deviendra un présent, que enfin la bataille navale aura lieu ou n'aura pas lieu. Voilà.
En fait, ce que dit Xavier, c'est que le futur est par définition indéterminé, incertain. Donc, quand on parle du futur, on peut logiquement dire que quelque chose aura lieu et n'aura pas lieu, car les deux possibilités coexistent tant que le futur n'est pas advenu et qu'il ne s'est pas transformé en moment présent. Bon, entre nous, je vous avoue que ces subtilités de la logique aristotélicienne m'échappent un peu. Par contre, je retiens que pour qu'il y ait des futurs indéterminés, il faut admettre que les dieux n'ont pas déjà écrit l'histoire. Autrement dit, pour que les hommes imaginent des récits sur leur futur, il leur faut renverser la notion de destinée.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette approche qui est très carrée, hein, très logique, ben, laisse justement, par la logique, une énorme place à l'indétermination et à l'imagination et au rêve, ce qui est quand même fascinant. C'est la logique qui garantit la possibilité de rêver jusqu'à ce que ce futur devienne présent. Le texte, on mange ça dans la boîte. Ah.
Mais oui, après, la question de savoir si la fonction du récit, c'est de faire rêver, en tout cas quand il est question de l'avenir, c'est vrai que c'est à remettre en doute. En fait, quand il s'agit de faire rêver, souvent on parle d'un autre monde, c'est-à-dire les contes de fées, le merveilleux, ou alors l'utopie, hein, la fameuse utopie à la Thomas More dans la Renaissance, au XVIe siècle, qui a fait florès dans toute l'Europe, ou ce genre de choses, quoi. Quand il s'agit d'évoquer le futur, à partir à peu près du XIXe siècle, peut-être vers même la fin du XIXe siècle, voire même le début avec Marie Shelley, le dernier homme, ça devient très vite une dystopie.
Dystopie. D'après le dictionnaire Larousse, la dystopie, contraire de l'utopie, est une société imaginaire régie par un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste telle que la conçoit un auteur donné. La dystopie dépeint donc un futur sombre. Et c'est tout le contraire de ce que cherchent à faire les tenants des nouveaux récits, qui veulent diffuser des récits alternatifs de futurs désirables.
Futurs proches, ce sont des ateliers de micro-récits imaginés collectivement et localement pour imaginer des futurs résilients positifs pour nos villes et nos villages.
Le futur est très largement dominé par la dystopie et par une vision très, très inquiète, très angoissante de ce que l'avenir peut réserver.
Si l'on dit à quelles conditions un récit fait rêver ou à quelles conditions le futur fait rêver, on sous-entend, c'est quasiment acté, sans que personne ne le dise vraiment, que c'est pour le bon. Si on rêve, c'est pour le bon. Mais on peut cauchemarder, on en rêve pas moins.
Le petit garçon qui lit, enfin, petit garçon, la petite fille, hein, mais qui, au XXe siècle, lisait des récits d'aventure qui se passaient dans le futur, Flash Gordon, etc. Ouais. Il rêvait, ça le faisait rêver, mais en fait, il n'y a aucun élément de rêve dans ces récits-là, si ce n'est le décor qui est extraordinaire, mais c'est toujours le danger, c'est toujours la menace, oui, c'est toujours des périls qui pèsent sur les personnages, voire même sur l'humanité.
Là, je crois que le témoin a laissé échapper un indice important. Le cœur d'un récit, c'est la tension dramatique, le suspense, l'incertitude, les émotions, mais pas le décor de l'histoire, qui peut être ou non futuriste. L'essentiel, pour que le récit retienne l'attention, c'est qu'il crée chez le lecteur une forme de tension, voire d'anxiété.
Pourquoi on a le du goût pour le récit anxiogène, c'est que déjà on fait rarement de bonnes histoires avec des bons sentiments.
Ben voilà, ouais.
Déjà. Et ensuite, bah parce que le, il y a rien à raconter sur le bonheur. Même les contes de fées le comprennent et ils vécurent heureux et auront beaucoup d'enfants. Puis là, allez, c'est fini. Allez, au revoir. Donc, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Hein, c'en est même un adage. Donc voilà, déjà.
Bah dans le schéma narratif de Vladimir Prop. Alors, on en pense ce qu'on veut, mais le récit ne commence vraiment qu'à partir de l'élément perturbateur.
Retour au dictionnaire. Vladimir Prop, né en 1895 et mort en 1970. C'est un folkloriste russe qui a consacré une grande partie de ses recherches à analyser la structure des contes merveilleux russes pour en identifier les plus petits éléments narratifs.
Qu'on appelle l'élément perturbateur, qu'on peut appeler aussi l'élément déclencheur, mais... C'est intéressant le mot perturbateur. Il faut qu'il y ait une perturbation, il faut qu'il y ait une crise pour que le récit débute. Et à quelque niveau que ce soit, ça peut être une comédie ou un récit policier, il faut qu'il y ait un drame, c'est-à-dire une action.
Ben ouais.
Et d'ailleurs, la langue française, ou même en anglais, on le retrouve ça. Le fait que drame se soit lié à l'action, quelle qu'elle soit, et que Molière était un dramaturge. C'est bien que dans l'idée du récit, il y a l'idée de quelque chose de grave, en tout cas quelque chose qui inquiète à un degré ou à un autre.
Bon, ok. Acceptons l'hypothèse qu'un récit n'est mobilisateur que s'il est porteur de tensions dramatiques. Est-ce que cela veut dire qu'un récit qui aurait pour décor un futur angoissant serait alors plus susceptible de faire agir qu'un récit qui dépeindrait des futurs désirables ?
C'est théorisé, hein. Par exemple Saint-Augustin, on parle beaucoup. Le futur est déjà là. C'est-à-dire qu'on est tous habitués à agir en vue du futur. Si, par exemple, on discute aujourd'hui, c'est en vue du montage du podcast. Mmh. Donc le futur est déjà là.
Vous vous rappelez ? Nicolas Mainviel ne disait pas autre chose dans l'épisode 1, quand il parlait de la multitude de futurs qui préexistent, sont déjà là, et vont advenir ou non en fonction des actions que l'on va mener. D'où l'importance, d'après lui, de choisir lequel de ces futurs on veut voir se réaliser. Pour engager les actions correspondantes. Et moi, je me demande si se raconter un certain récit sur notre futur, ce n'est pas une manière détournée d'en choisir un plutôt qu'un autre.
Donc on est tout le temps, chacun de nous individuellement, en train de produire massivement et à une vitesse prodigieuse quantité de micro-récits intérieurs, intimes, personnels. Et si je vais là, et si je vais pas là, et si je pars à 8h au lieu de 9h, finalement je vais partir à 9h15. C'est-à-dire qu'on est tout le temps, chacun, producteur de récits. Donc le futur, il advient, ça pose pas de problème, et il advient sur un terrain qu'il a lui-même préparé, puisque le futur est déjà là. Et de temps en temps, on tombe, bingo, dans une improbabilité, qui fait qu'on se dit waouh, alors lui, visionnaire. Hein. Mais en fait, c'est toujours impressionnant, mais c'est de l'ordre de l'acceptable quand même, intellectuellement. On comprend qu'il y est arrivé, si on décortique Jules Verne, il y avait au moins en puissance, au moins à titre de brevet, toutes les inventions qu'il décrit. Donc le futur est déjà là.
Ce que dit Xavier ici, c'est que même les récits qui paraissent prophétiques n'inventent pas le futur. Ils ne font que le déduire de ce qui existe déjà.
Que Jules Verne parvienne avec un futur qui est déjà là à son époque, via les brevets déposés, via certains prototypes, à envisager un futur qui advient, c'est remarquable, mais c'est acceptable. Et c'est surtout explicable.
Mais sinon, moi, l'exemple que j'ai en tête, parce que il est à la fois d'actualité et historique, c'est le film Soleil Vert de Richard Fleischer.
Ah ouais.
Parce qu'il se passe maintenant, en 2022, et qu'il a été tourné en 1973. Et quand on le regarde aujourd'hui, il y a ce caractère prophétique. Et le film a une aura, bon, déjà, qui lui est propre, parce que c'est un film extraordinaire, mais aussi parce que ce qui se passe en 2022 à leur époque, c'est quasiment notre présent, caricaturé, mais quand même.
What is the secret of Silent Rain?
Je l'avais présenté récemment au cinéma, à Bordeaux, Et la salle était entièrement masquée et regardait sur l'écran, un écran sur lequel il y avait une population entière masquée. Donc déjà, il y a un miroir qui est tendu aux spectateurs à travers le temps. Finalement, la fiction et la réalité se rejoignent. Et les préoccupations du film, qu'elles soient écologiques, liées à la surpopulation ou au problème des denrées alimentaires qui se réduisent, donc c'est exactement en fait notre réalité. Et donc, finalement, ce Soleil Vert, il pourrait très bien sortir aujourd'hui, quasiment inchangé, mais il faudrait qu'il se passe en 2042 pour qu'il soit encore un peu plus crédible et angoissant pour les spectateurs d'aujourd'hui. Et aussi, moi, ma théorie, c'est que en fait, quand Fleischer, le réalisateur, parle du futur, il parle aussi et surtout du passé, et que il est en train de raconter à travers ce film-là la généalogie de la catastrophe qui est à venir, mais qui est en fait inscrite dans l'histoire du XXe siècle. Et le film, dans sa constitution, dans tous les référents qui sont utilisés pour créer un futur probable, puise en fait dans le passé. Toutes les scènes où on voit les scènes de marché, les tenues sont brunâtres, plus ou moins sales, les femmes portent des fichus, le marché c'est un fonctionnement avec des étals, etc. On se croirait en fait en pleine crise économique des années 30. Et pareil, la fameuse scène avec les pelleteuses qui vont justement se débarrasser des manifestants qui sont pas contents de pas avoir assez à manger. Fleischer le disait lui-même, c'est une allusion en fait à l'Holocauste et aux camps de concentration où les gens sont traités comme comme des objets dont on se débarrasse, que l'on gère, un simple flux de marchandises quoi en quelque sorte. Et puis surtout à son époque, quand Fleischer fait ça, c'est la guerre du Vietnam, mais c'est aussi et surtout le choc pétrolier qui fait prendre conscience de tout ça. Donc en fait, tout le futur du film, il est inclus dans le passé plus ou moins récent. Enfin, c'est pas un passé qui renvoie à plusieurs centaines d'années et qui ne semble cesser de se répéter vu que aujourd'hui finalement on a une situation qui est extrêmement similaire.
Ça y est. Voilà un premier aveu très important. Les récits du futur sont en réalité profondément enracinés dans le passé et dans le présent de celui qui écrit. Ils en exacerbent les excès. Ils décrivent une trajectoire possible, voire probable, d'évolution, de tout ce qui déconne dans le présent de l'auteur. Est-ce que cela veut dire que notre capacité à imaginer le futur est nécessairement réduite parce qu'elle est délimitée par les contraintes de notre présent ?
Il y a une situation qui fait que les possibilités d'envisager le futur sont réduites, c'est quand on est vieux. Parce que quand on est vieux, l'horizon... Alors, est-ce que c'est un futur ou est-ce que c'est un avenir, c'est-à-dire un futur immédiat ? Ben, l'horizon, c'est la mort. Et en fait, l'horizon immédiat des personnes âgées, c'est la mort. Donc, c'est pas un futur qui fait rêver. Ce qui est intéressant, c'est la réaction et c'est surtout la façon de vivre cet horizon du futur. Et par exemple, dans les croisières avec les énormes bateaux pleins d'étages, etc., c'est toujours des vieux. C'est souvent des vieux. Love, exciting and new. Come aboard, we're expecting you. And love. Et le succès des croisières, à mon avis, c'est parce que c'est une espèce d'instant. C'est vraiment délimité, c'est un bateau. C'est entouré d'eau et d'eau. Donc c'est un instant, donc c'est une espèce d'illusion présent, et en plus un présent infantilisant, et souvent les personnes âgées c'est comme les enfants, c'est caractériel, c'est irresponsable, il faut s'occuper d'eux, etc. Et c'est ce qui se passe dans les croisières, et je pense que en fait les compagnies maritimes, elles proposent un récit. Tiens, pour le coup, hein, j'ai pas perdu de vue bien au contraire la problématique, mais elle propose un récit qui est que pour échapper à un futur certain qui est la mort, mais il y a une sorte d'ersatz de l'enfance, de présent indéfini qui est l'enfance des personnes âgées sur un bateau. Et le bateau, c'est un instant figé.
Là, mine de rien, Xavier évoque un concept qui fait fureur depuis des décennies, celui du storytelling.
Le storytelling est la technique pour créer et raconter des histoires. Un outil applicable pratiquement à tous les formats de communication. Discours, pitch, site internet, publicité ou keynote. C'est un art ancestral, peaufiné par des millions d'auteurs avant nous.
Donc si je comprends bien, les récits peuvent être élaborés et utilisés dans le but de nous influencer, typiquement pour nous faire acheter des choses, ou modeler nos opinions et nos visions du monde. Mais alors, si on pose comme principe qu'il faut des nouveaux récits pour transformer nos comportements, est-ce qu'il vaut mieux du storytelling diffus, de la fiction positive, de la fiction anxiogène? Qu'est-ce qui marcherait le mieux?
Il ne faut pas confondre le moyen utilisé et la fin visée. Les dystopies, en général, elles ont pour but de faire réagir, elles ont un but positif. Pas certain que les récits à bons sentiments aient un but positif. À mon avis, ça porte pas du mal, mais ça porte rien, en fait. Voilà.
Oui.
Mais c'est pareil pour les récits d'une époque. Tout à l'heure, tu parlais d'un podcast récent que tu avais enregistré, les imaginaires d'une époque, mais l'imaginaire, par exemple, des années 50, juste après la Seconde Guerre mondiale, c'est plein de bons sentiments, justement. Enfin, en partie, on peut décomposer, il y a quand même aussi la guerre froide et tout, mais globalement, ce qu'on cherche avant, c'est à l'échelle, j'allais dire mondiale, mais non, à l'échelle du bloc occidental, un idéal qui est celui du rêve américain. C'est très positif. Et d'ailleurs, ça a donné plein de très belles choses, mais en même temps, ça a très vite fini par être extrêmement anxiogène parce que c'était totalement artificiel.
Ah mais carrément, oui.
Les années 50 sont les premières. On dit toujours les années 50, voilà, Hollywood, c'est il y a une ligne de conduite qui est de transmettre en fait une image idyllique de l'Amérique. Mais il y a déjà quantité de films dans cette décennie-là qui laisse présager l'effondrement en fait à venir de ce système-là et du rêve américain qui s'avère être très vite un cauchemar.
Et tout ça est bien reproduit dans la série Mad Men. Le héros est un créateur de récits, par définition dirigé vers le futur puisque la campagne elle n'est pas encore faite, elle est à monter, et sont tous des grands névrosés. Alors que tout est positif si on prend point par point. C'est pour faire vendre à des gens qui peuvent acheter. Il n'y a pas de pauvreté dans Mad Men. Donc toute la mécanique est censée bien tourner et c'est une machine à rien qui tourne à vide pour des grandes névroses. Il y a autre chose qu'on n'a pas abordé, c'est par association d'idées, mais on pense le futur à travers des récits qui est un futur pour toute l'humanité, alors positif ou négatif, mais il est toujours occidental. J'en tire pas spécialement une condamnation, parce qu'on imagine avec ses outils aussi, il ne faut pas non plus exagérer, mais le fait est que on pense que si le drame a lieu pour les Occidentaux, mais il a lieu pour le monde. Voilà. Et à l'inverse, si on voit à travers les lignes du livre ou à l'écran des Occidentaux tirés d'affaires, ça veut dire que le monde l'a été tiré d'affaires.
Ici, ce que dit Xavier me rappelle les travaux de Philippe Descola sur l'imaginaire de la nature, quand il a montré que d'autres civilisations que la nôtre pouvaient avoir un tout autre rapport que nous à l'environnement. Si je pousse la déduction plus loin, quand on multiplie les appels à de nouveaux récits, on croit le faire pour l'humanité. Mais en fait, on implore de changer le récit du monde occidental et on part du principe que si ce récit change, ce sera pour le meilleur, pour tout le monde. Ce qui reste prisonnier d'un imaginaire complètement occidentalo-centré.
Puis, la distance, elle est horizontale, par exemple de l'Occident à l'Afrique, à la Chine, mais elle est aussi verticale et donc sociale. Par exemple, quand il y a un débarquement d'un vaisseau spatial, il a lieu à New York, parce que c'est sexy. Il n'a jamais lieu à Arcis-sur-Aube, un mardi en octobre, parce que là, c'est mort, en fait. Donc, de toute façon, c'est vrai, dans le récit qui fait rêver en bien ou en mal, il y a quand même des cadres obligatoires. Et d'une certaine manière, tous les films, ils sacrifient, y compris les chefs-d'œuvre, Même Soleil Vert, par exemple, le coup final est un coup qui affecte tout le monde, mais qui séduit tout le monde, parce que ça touche à des peurs que, hein, tellement profondes que c'est dû à coup sûr, là.
Il y a donc, pour les récits du futur, des passages obligés, des codes à respecter, si on veut espérer toucher une large audience. Mais que pourraient donc être ces passages obligés pour des nouveaux récits, voulant susciter l'adhésion à des futurs souhaitables, autrement dit, plus soutenables d'un point de vue écologique.
On avait participé tous les deux à Métal Hurlant, le retour numéro 1, qui a justement comme objet le futur.
Le voilà, tout droit sorti de chez l'imprimeur. Le premier numéro du nouveau Métal Hurlant, le magazine BD culte de science-fiction, créé en 1975 par les maîtres du fantastique Philippe Druyer, Moebius et Jean-Pierre Dionnet. Au sommaire du magazine, des histoires courtes en bande dessinée, mais aussi des articles de fond sur l'avenir proche et l'évolution de nos sociétés. Le Métal Hurlant des années 2020 se veut davantage ancré dans le réel que son auguste aîné, tout en conservant une large place à ce qui constitue l'essentiel de son ADN, l'imaginaire.
Le projet était déjà fixé avant la pandémie, et notamment avant le premier confinement. Il a été décidé que la ligne qui serait celle des récits qui allaient venir nourrir ce numéro, ce serait d'envisager un futur le plus positif, en tout cas un futur qui fait rêver. Un futur qui fait rêver, un futur qui permet en fait de s'extraire du marasme dans lequel on est pour pouvoir se projeter dans un avenir séduisant, hein, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Il s'est avéré que il n'y en a pas un seul... Il n'y en a pas un seul qui a proposé un récit positif. Et pourtant, c'était le cahier des charges. Mais statistiquement parlant, c'est assez, ah oui, c'est assez génial.
Ah, ça, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Zéro auteur du panel capable d'écrire une fiction positive. Ça en dit long sur notre optimisme présent. Mais alors, pourquoi les récits qui nous dépeignent un futur angoissant ne nous poussent-ils pas plus à l'action?
Pourquoi on n'est pas influencé par des récits qui ont pourtant dit ce qui se passerait et qui advient. Bon. Il y a deux films, Docteur Follamour, que tu évoquais, et Point Limite. C'est exactement la même histoire, exactement. Suite à des problèmes informatiques, une escadrille de bombardiers américains s'approche de Moscou avec des armes nucléaires. Le pitch est identique. Il y en a un qui est extrêmement grave, sobre, qui est Point Limite, et l'autre qui est une énorme farce, Docteur Follamour.
Docteur Strangelove.
Or, how I learned to stop worrying and...
Love the bomb.
A moving picture.
Les deux sont valables et les deux se neutralisent. Donc pourquoi on serait tenu de réagir à un récit? Ce qui est raconté en soi aurait pu être raconté autrement. Et peut l'être. Donc pourquoi? Mais de toute façon, c'est comme dans les réseaux sociaux. Quand est-ce que la dernière fois c'est arrivé que quelqu'un dise, donc produit un récit dans les réseaux sociaux et que tout le monde dise « Oh putain, mais c'est vrai !» Qui c'est qui change d'avis? Personne.
Non.
Donc non, c'est pas parce qu'il y a production de récits aussi élégants, talentueux qu'ils soient, que ça va changer les...
Ah là, le témoin amène un très bon point. Il ne suffit pas d'un bon récit pour conduire les lecteurs à changer de comportement. Tout comme un argument d'expert ne suffit pas à faire changer d'avis les participants à un forum sur Internet. Cela relève de la responsabilité individuelle de se saisir ou non de la perspective qui est proposée. Et d'ailleurs, en parlant de perspective, de même qu'on parle toujours de récits du futur du point de vue occidental, j'ai bien l'impression qu'il s'agit aussi toujours du point de vue des adultes.
Quelques mots sur Astro Boy, quand même, parce que c'est un gros beau travail de récit du futur, mais pas occidental.
Bah oui, voilà, c'est ça. Mais qui est en réaction aussi à un passé récent, qui est celui du traumatisme de l'effondrement du Japon vis-à-vis du géant américain.
Dans le secret d'un laboratoire de Futurapolis, le professeur Battus a créé un nouveau robot. Cependant, ce robot du 21e siècle n'est pas tout à fait comme les autres. C'est un enfant robot. Qui aurait pu imaginer que cette petite créature fragile connaîtrait une extraordinaire destinée? Et pourtant, que d'aventures pour celui qui allait devenir Astro, le petit robot.
Ce héros du futur qui nous fait vivre de vraies aventures, toujours là quand il faut, c'est Astro, le petit robot.
Il faut se rappeler que dans la genèse du personnage, c'est un petit garçon qui meurt. Et son père, un professeur, un scientifique, ne peut pas surmonter la mort de ce petit garçon, et donc il va en construire une réplique robotique. Et déjà, il y a quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est l'avenir, c'est finalement essayer de faire ressusciter un idéal qui, de toute façon, est mort, quoi. Le premier récit dans lequel il intervient, où il n'est pas forcément le personnage principal, c'est l'ambassadeur Atom, qui est en fait une traduction très peu fidèle de l'ambassadeur de paix, qui était le titre japonais. Donc Astro, c'est un ambassadeur de paix, c'est un ambassadeur d'amour, puis c'est aussi un ambassadeur en fait des enfants japonais de l'époque, qui, à travers lui, semblent pouvoir se projeter dans un avenir, alors qu'ils n'ont aucun passé. Ils ont aucun passé auquel se raccrocher. Et ça, c'est très rare. C'est vrai que c'est extrêmement rare comme récit. C'est pas du tout une forme d'utopie mercantile ou consumériste où tout le monde est heureux et tout le monde est gentil et que les méchants finalement sont très marginaux. Ça, ce serait plutôt du côté des Américains. Là, on a des personnages qui sont toujours très très ambigus, mais qui sont transformés par la rencontre avec Astro. Qui devient une sorte de messie, en fait, enfin, de personnage messianique, en tout cas, d'un monde futur qu'il faut faire advenir, au moins pour les enfants.
À travers l'exemple d'Astro Boy, Nicolas dévoile deux choses. D'une part, que les récits d'avenir auxquels on pense spontanément ignorent, généralement, le point de vue des générations futures, dont ils sont pourtant justement censés décrire l'avenir. D'autre part, qu'il y a différents supports possibles pour le récit. On a évoqué des films, des livres de fiction, mais s'il y a un genre qui s'est beaucoup intéressé au sort de l'humanité dans le futur, c'est aussi la bande dessinée. N'oublions pas qu'Astro Boy est d'abord un manga, avant d'avoir été adapté en dessin animé, puis bien plus tard en film d'animation.
Et c'est pour ça que la bande dessinée, elle est pleine de choses intéressantes par rapport à ça, parce qu'elle informe sur l'imaginaire qui est celui de l'enfant, ou en tout cas l'imaginaire tel qu'on peut se le représenter du point de vue de l'enfant, au XXe siècle, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Et pour revenir sur l'idée des archétypes, tu le sais autant que moi, le héros orphelin, c'est un archétype absolument fondamental, en fait, dans tous les récits de l'humanité, et y compris depuis les récits primitifs et fondamentaux. Et le fait qu'en bande dessinée, ce soit tous, ou presque, en bande dessinée classique, des héros orphelins, c'est pas anodin. Ou quand c'est pas dit, c'est pareil. Hein. Tintin, oui, on ça. Sait pas s'il est orphelin, mais bon, Spirou, en tout cas, voilà, exactement. Spirou qui est lui-même inspiré par un enfant mort. Enfin, y a quand même un truc à creuser par rapport à ça. Superman, il est carrément orphelin de sa planète. Hein. Batman ne devient Batman que parce qu'il a perdu ses parents, etc. Et donc, à chaque fois qu'on projette un récit pour les enfants, il faut partir comme point de départ, comme base, que avant, enfin, ce qu'il y avait avant n'existe plus.
Si on y réfléchit, en fait, c'est exactement la même chose avec les récits de science-fiction qui nous projettent dans un futur très lointain. Ils se passent tous après quelque chose qui a comme annulé, quand ce n'est pas détruit, la Terre que nous connaissons.
Toute la conversation que l'on a, en fait, elle part de l'idée que le lecteur est un lecteur adulte.
C'est vrai.
Et ce n'était pas du tout le point de départ. C'est-à-dire que la science-fiction, dans son âge d'or, c'est comme ça qu'elle se qualifie, le Golden Age, déjà, elle est publiée dans des revues totalement périssables, hein, ce qu'on appelle les pulps, ça s'effrite, etc. Ce sont des enfants. Et l'avenir qui est décrit, c'est un futur lointain. Qui a surmonté toutes les crises. D'ailleurs, on n'en parle même pas. Par exemple, on va dire c'était l'humanité avait survécu au temps de la grande catastrophe,
oui,
avec des majuscules partout,
grand, oui,
voilà, ou La Grande Obscurité, toujours été. Bon. Mais c'est un enfant de 12 ans qui lit ça au départ. Et de nos jours, il y a une véritable nostalgie du futur, mais de ce futur-là, c'est-à-dire le futur des pères fondateurs comme Asimov avec son fondation, son empire, ou Star Wars, qui cette idée aussi d'un passé tellement lointain qui en devient asymétrique d'un futur tellement lointain. Et en fait, le futur de la nostalgie, ou plutôt la nostalgie du futur, c'est quelque chose qui est vraiment regretté à notre époque.
Avoir la nostalgie du futur. Voilà qui est aussi poétique que paradoxal. Et quand j'y réfléchis, je me dis que c'est sans doute aussi ça, la signification implicite qui se cache derrière les appels à de nouveaux récits. Car avec ce qu'on sait aujourd'hui de nos excès, des catastrophes que provoque notre système, il n'est plus possible d'écrire ni de croire en des futurs tels qu'on les imaginait dans les années 50 ou 60. Mais que peut-on bien imaginer de positif, de joyeux, de désirable en ce début de 21e siècle, marqué par l'urgence climatique, la violence communautaire et l'insécurité géopolitique ?
Maintenant, on pense effectivement des récits du futur en relation avec les ennuis qu'on traverse, alors que le futur de l'âge d'or était un futur débarrassé de tout ça. On avait réglé tout ça.
C'est aussi tout un imaginaire qui est puisé justement dans les années 50. Tu vois, toutes les publicités qu'on pouvait y voir, modernes mécaniques, etc., qui envisageaient justement par le biais d'un progrès scientifique complètement fantasmé, un monde futur possible. Et ce qui est intéressant, c'est que la façon dont sont représentées les innovations techniques dans ces magazines-là, américains des années 50, ça ressemble à des jouets. Les couleurs, c'est jaune, bleu, rouge, et les voitures, les avions, les bateaux, c'est des jouets, quoi, c'est des gros jouets.
C'est vrai, la ménagère, elle est en jupon en aluminium, mais elle est la ménagère. Le facteur, il passe sur un scooter aérien, mais il a une bonne tête ronde avec des moustaches et une casquette.
Voici le Remington Roll-A-Matic, premier rasoir électrique réglable, quelle que soit votre barbe. Vous obtenez le rasage le plus rapide, le plus net et le plus doux avec le Remington Roll-A-Matic à grande surface de coupe. Remington Roll-A-Matic, le premier rasoir électrique réglable.
C'est-à-dire que c'est un présent qui est totalement décalé avec une quincaillerie du futur.
Ah, j'adore ce terme de quincaillerie du futur. Ce que disent Xavier et Nicolas ici, c'est qu'on imagine toujours le futur à partir de notre référentiel du présent. Et ce, même visuellement. Par exemple, dans le cinquième élément, Bruce Willis conduit un taxi. Alors ok, il vole. Mais c'est un taxi, jaune.
Je suis pas contrariant, vous voulez la jouer hard ? On va la jouer hard.
Et les hôtesses de l'air de son vaisseau spatial, elles ont des uniformes que pourraient très bien porter les hôtesses de l'air de n'importe quelle compagnie aérienne actuelle.
To make your flight as short as possible, the flight attendants are switching on the sleep regulator, which will regulate your sleep during the flight.
Les récits de l'âge d'or, ça peut se passer en l'an 3000... dans l'Empire intergalactique, donc tout ça vraiment couvert de majuscules, et le général des cadets de l'espace, il bourre sa pipe. Tout à coup, on est replongé dans le présent, et on imagine bien le gamin qui est dans le futur intergalactique, il suffit de lever la tête et il y a son père dans le salon qui bourre sa pipe pendant que sa mère, donc l'épouse, lui apporte son whisky bien tassé.
Bon, c'est vrai que c'est marrant quand on y pense, ce télescopage d'une ambition de récit futuriste avec des indices dans le décor qui révèlent radicalement l'époque réelle du récit. Bon, mais à part me faire rire, à quoi sert un décor bourré de références au quotidien dans un récit de science-fiction ?
Il a des enjeux très forts, qui sont des enjeux politiques, qui est de rassurer.
Ouais. Les liens qui se font avec le présent sont toujours des liens un peu satiriques. C'est-à-dire qu'on observe les personnages en train de faire ce que nous on fait, mais en pire. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux, sur... C'est ça, au cinéma, ça marche beaucoup, ça.
Ouais.
Et du coup, ça crée un décalage, si on veut. On se reconnaît dans le futur, on reconnaît nos défauts, mais caricaturés.
Il y a toute une, pas une littérature, mais toute une production livresque de Star Trek, de Star Wars, etc., qui sont la reconduction du même, parce que ça a l'apparence de l'anticipation, mais c'est totalement neutralisé, parce que justement, c'est en l'an 10 000 ou en l'an 15 000, les vrais problèmes qu'on a... on peut pas associer Star Trek à Al-Qaïda. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans Star Trek, on s'est évadé du monde. Donc c'est une sorte d'opium du peuple, hein, pour paraphraser l'autre, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que il y a un bien-être à être engourdi par la énième série télé sur Picard ou Dieu sait quel capitaine de la Starfleet, on s'y perd, mais il y a une demande. Ouais. Et il y a une demande pour des bouquins de gare ou même des livres écrits avec talent, mais qui sont du space opéra sans engagement ici et maintenant.
Ouais. Ça reconduit aussi les récits d'aventure classiques, enfin presque, mais avec d'autres moyens. C'est-à-dire c'est plus des bateaux... des caravelles, mais c'est des vaisseaux spatiaux.
Oui, voilà. Ouais.
Bon alors, si ce n'est pas la quincaillerie du futur qui fait des récits d'avenir, des récits potentiellement porteurs de transformation, qu'est-ce que ça peut bien être ?
Les grands récits d'aujourd'hui sont des récits collectifs produits par les réseaux sociaux. C'est-à-dire, par exemple, ça commence, il y a une nouvelle série, donc il va y avoir des sites dédiés à commenter cette série. Et ça produit du récit. Pas nécessairement de la fiction, ça peut en produire, des fanfictions, mais en tout cas, ça produit du récit. Bon.
C'est là que je m'aperçois que je confonds depuis le début récit et fiction. Ces appels à de nouveaux récits, est-ce à la fiction seulement qu'ils font référence ? Et ces militants de ces nouveaux récits, est-ce qu'ils se sont seulement posé la question de la distinction ?
Et Dieu sait si on l'a vu dans le confinement. Ouais. Dieu sait si on l'a vu avec le Covid. Comment on le voit en ce moment avec Poutine, on a une production de récits qui n'en ont rien à faire du réalisme ou du vraisemblable, qui sont purement dans l'affect, mais qui sont collectifs. Et ça, c'est la grande nouveauté. C'est-à-dire qu'on n'a plus un émetteur qui était l'écrivain, un récepteur qui était les lecteurs. On a des gens qui sont à la fois émetteurs et récepteurs, qui réceptionne des récits, mais qui aussi les crée.
Ce qui est un peu flippant avec ce que dit Xavier, c'est qu'à mon avis, personne n'est vraiment conscient qu'il participe à la création d'un récit collectif. Et je crois que les conséquences inattendues de ces récits collectifs sont elles aussi un enjeu nouveau et totalement sous-estimé. Je pense par exemple au passage à l'acte de terroristes solitaires, comme lors de l'assassinat de Samuel Paty, ou aux émeutes du Capitole, lors des dernières élections américaines.
Puis quand la catastrophe aura lieu, on reviendra au début de la conversation, on sera au proto-langage, donc on fera ouk ouk avec la main, je vous expliquerai de l'autre côté.
Ce sera un podcast
des tigres radioactifs. Ouais. Podcast qui sera gravé sur la...
On aura des grottes, on
aura des
signaux bizarres.
C'est pas le podcast qu'on emmène avec soi, c'est le podcast où on va vers lui.
Cette enquête finira-t-elle gravée dans la pierre ? Je crois que l'incantation à de nouveaux récits est sans doute moins une aspiration à de nouvelles fictions qu'à une nouvelle quincaillerie du futur, moins technophile et plus nature-friendly. Bon, sauf que ça reste de la quincaillerie, du décor, et que c'est l'imaginaire qui produit cette quincaillerie qui doit évoluer pour que les récits évoluent. On ne changera pas une époque avec des nouveaux récits. Mais en revanche, si on change d'époque, il est à peu près certain que les récits changeront eux aussi. En attendant, la suite de mon enquête va être consacrée à ce qui change déjà dans notre système et que nous ne nous racontons pas encore.
Enquête d'avenir.
L'enquête continue. Vous pouvez retrouver tous les épisodes, leurs sources, les bios des témoins et bien d'autres choses encore sur le site internet www.enquêtedavenir.com.